Dans la volumineuse biographie qu'il a consacrée à Samuel Beckett, James Nelson, évoquant l'influence attestée qu'a eu le petit tableau « Deux hommes contemplant la lune » de Gaspard David Friedrich dans la Genèse d'En attendant Godot, ajoute « Son rôle est peut-être plus important encore qu'on ne le croit. Ce bref commentaire ne pouvait qu'aiguiser ma curiosité alors que j'avais exploré dans plusieurs livres le lien qui m'attachait à la peinture et la manière dont une œuvre artistique pouvait entrer en résonance avec celle d'un écrivain. Mais il s'agissait à présent de passer par le regard d'un autre écrivain, et non des moindres. Beckett est un Everest. Candidement, j'ai pensé qu'en l'abordant à travers cette courte période du voyage en Allemagne de 1936-37, et plus précisément l'épisode du petit tableau de Friedrich, je pouvais contourner son immensité et le sentiment d'écrasement qu'elle inspirait. En réalité, je n'ai fait qu'éviter de lui faire face, car cette immensité était déjà là, prête à jaillir de terre. Et c'était comme si je m'étais retrouvé à devoir faire passer une corde épaisse dans le minuscule chat d'une aiguille. J'ai essayé.
Bonjour Stéphane Lambert. Nous parlons de Avant Godot, qui vient de paraître aux éditions Arléa. Vous venez d'en lire la première page qui montre votre intérêt soudain de cette relation entre une œuvre, un tableau, une œuvre picturale et un écrivain, un de nos très grands écrivains du XXe siècle. Quel a été l'apport du tableau pour Beckett? Il y a quelques petites indications tout au long du texte, bien entendu, c'est le principal argument de votre livre. Le tableau de Friedrich, écrivez-vous, venait de lui en inoculer le germe dont l'incubation prendrait plus de 11 ans. Ce germe, ça serait un sentiment de réconfort.
Alors c'est une question difficile à circonscrire à un seul terme, à une seule... En fait, il faut parler de la situation dans laquelle se trouvait Beckett au moment où il a vu cette forme, ce tableau. Il était dans une période de crise et donc il était en train de chercher une issue à une impasse dans laquelle il se trouvait à la fois humainement et créativement. Et cette impasse l'entraînait vers un rapport avec le monde extérieur extrêmement mortifère qui était illustré par le personnage de Murphy qu'il venait d'écrire avant de partir en Allemagne, qui était une attitude de repli sur lui-même, dans son érudition, et donc de fermeture par rapport au monde extérieur. Et en même temps, il essayait de se sortir aussi de l'influence de Joyce pour trouver sa propre voie en littérature, en voie avec un E ou avec un X à la fin. Et cette œuvre de Friedrich, je pense, formalisait au moment où il l'a vue tout ce qu'il était en train de rechercher. Donner une forme, donc montrer qu'une forme était possible à cet état. Et donc il y avait un pas aussi possible pour avancer dans une direction qui serait la sienne.
Dans quel état se trouvait Beckett à ce moment-là? Donc on est à la fin des années 30. Dans quel état se trouvait-il déjà psychologiquement et physiquement, puisque les deux vont ensemble chez Beckett, ils somatisent beaucoup?
Ben, très peu de temps avant de voir cette œuvre, il utilise un mot très précis, en janvier, donc il a vu l'œuvre en février, il parle d'un état de marasme, donc... c'est pas un état dépressif parce que enfin, c'est un état de dépression dans le sens où il a l'impression d'une stagnation, d'être empêché d'atteindre quelque chose et d'être retardé dans son accomplissement par tous ces symptômes liés à l'angoisse qui le pressent et qui le font stagner en fait. Mais en même temps, il y a en lui une volonté de dépasser ça, donc qu'il a déjà mise en œuvre en faisant par exemple une psychanalyse, enfin à l'époque c'était une psychothérapie pendant 2 années. Donc il y a une espèce de mouvement contradictoire en lui, il y a cette espèce de marasme dont il parle, et en même temps, il y a cette volonté de la dépasser, et qui peut trouver aussi une résonance dans la philosophie de Göhlings, qu'il a lu, enfin qu'il a même plus que lu, il a traduit certains passages qui comptaient pour lui et qui, à mon avis, devaient avoir une signification justement par rapport à ses propres recherches. Et cette philosophie de Göhlings lui a appris en fait à accepter justement cet état des limites dans lequel nous sommes, et à essayer de trouver dans cet état des limites une tâche à laquelle se consacrer, et donc qui permet également de faire de dépasser ce stade de la dépression. Donc voilà, c'est ça, c'est un peu la coloration de son séjour en Allemagne, et qui, c'est une coloration qui est assez aussi représentative de la crise que traverse, enfin que fait plus que traverser l'Europe à l'époque, puisque on est en Allemagne nazie, on commence au début du séjour, on commence à enlever les œuvres des artistes dégénérés des collections. Donc il y a une espèce d'élitement généralisé autour de lui. On a l'impression que le monde est en train de courir à sa perte, et ça renvoie à son propre sentiment intérieur. Et je pense que de voir ce tableau de Friedrich, ça a été vraiment une vision d'un possible, en fait, dans cet impossible dans lequel il pensait être.
Oui, vous écrivez, il y aurait eu là, dans cette salle de la Kunsthalle de Hambourg, une rencontre invisible, invérifiable, formalisée par l'alchimie de la pensée d'un philosophe flamand méconnu, Göhlings, dont vous avez parlé, et la peinture d'un artiste allemand au renom renaissant à travers le regard d'un auteur irlandais en devenir, ouvrant un étroit passage vers la perspective d'une œuvre à accomplir. Il en est où artistiquement, Beckett ?
Bien, donc comme je viens de le dire, il vient d'écrire Murphy, enfin il a terminé en juin, donc quelques mois avant son départ. Mais c'est une œuvre qui cherche encore, comme dans l'œuvre de son maître Joyce, à essayer de tout embrasser, de tendre sa toile sur le réel, et de comment dire, oui, dans l'accumulation de et la je ne trouve plus le mot exact, dans l'appropriation en fait du monde extérieur, et je pense qu'en fait ce voyage va lui faire comprendre, et je pense qu'il a déjà compris d'ailleurs avant le voyage, que sa voie, elle est plutôt dans la perte, dans l'abandon justement de tous ses repères, de tout ce savoir, de toute cette volonté de conquérir l'extérieur, et d'essayer de sonder justement l'intérieur, les profondeurs, le sous-sol, comme on dit dans Attendant Godot. Et ce passage de 6 mois en Allemagne va avoir un rôle important de ce point de vue, puisque en plus de se confronter donc aux œuvres d'art, c'est une tâche qu'il va faire tous les jours tout au long de ce séjour, il va se confronter à une autre culture. Et on sait qu'évidemment, il va s'accomplir en écrivant en français, mais je pense qu'il avait déjà à l'esprit l'idée que d'être entouré d'une autre langue, d'autres manières de voir, d'appréhender, était le seul moyen de peut-être se défaire de tout ce savoir qui paralyse et empêche de sonder cette matière qu'il appellera l'innommable, et qui sont les dessous de ce qui nous fonde en tant qu'identité construite, en fait, hein. Et aller au plus près de l'être dans son indéfinition, son indétermination.
L'œuvre qu'il voit de Friedrich, c'est deux hommes contemplant la lune, un petit tableau, dont la redécouverte était relativement récente, quand Beckett s'attarda devant cette œuvre. Cette petite œuvre, écrivez-vous, témoigne à elle seule de toute la détermination d'un artiste à investiguer un domaine austère et incertain qui ne pouvait pas laisser indifférent l'œil en alerte du jeune écrivain.
Bah oui, parce qu'en fait, si vous regardez l'œuvre de Friedrich, c'est ça qui est intéressant et qui montre aussi qu'il y a des idées un peu fausses sur à la fois le romantisme et plus particulièrement le romantisme de Friedrich. C'est que Friedrich s'intéresse au paysage, mais au paysage, à ce que le paysage cache derrière son rôle de décor d'environnement. Et dans cette œuvre très précisément, les deux hommes qui sont dans le titre du tableau et qu'on repère évidemment tout de suite ne sont pas le centre du tableau. Ils sont légèrement sur la gauche et en fait au centre du tableau on a une béance qui est éclairée par la lune. Cet astre mort qui réverbère la luminosité du soleil pendant la nuit. Donc vous avez en fait l'expression, la mise en forme de cet extérieur où l'homme en fait n'occupe qu'une place secondaire. Et il y a un dispositif extrêmement intelligent et simple dans cette œuvre de Friedrich, mais dans toutes les dans la plupart des œuvres de Friedrich, qui font qu'à la fois on regarde ce décor à travers le regard de ces deux observateurs, mais en même temps on se met à la place de ces deux observateurs et on voit aussi ce décor comme étant cet espace vidé de la présence humaine. Et ça, c'est une dimension qui va être réutilisée chez Beckett. Et je pense que Beckett a essayé de trouver une forme littéraire pour dire à la fois ça, cette présence humaine, et à la fois cette altérité du monde qui l'entoure et qu'il appelle à un moment l'inorganisme de l'organisme qui crée une fracture en fait dans notre relation au monde. On sait qu'on est là, mais on sait aussi que ce monde est une chose qui existe sans ce regard. Donc c'est très très c'est un vertigineux en fait l'œuvre de Friedrich. Elle montre une chose en fait qu'on ne devrait pas voir en fait. Elle montre notre absence.
Le tableau lui disait, écrivez-vous également, lui disait précisément et tacitement deux choses: que les mots devaient relever du même pouvoir d'interpellation que l'image, et qu'il lui fallait changer cette déréliction qu'il ressentait profondément en littérature.
Oui, c'est vrai. En fait, je pense que c'est pour ça qu'il a changé de langue, pour pouvoir faire avec les mots autre chose que des phrases totalement intelligibles qui ne font appel qu'à la structure de raison qui nous a été inculquée et qui nous empêche finalement de nous reconnecter avec des sensations et des... Enfin, c'est plus que des sensations, mais... l'élémentarité de notre présence. Et il faut donc que les mots agissent comme les images. Donc c'est quelque chose de très compliqué, parce que les mots, ça passe par le décodage intellectuel. Donc pour arriver à faire en sorte que les mots outrepassent cette zone de la raison et arrivent à atteindre des zones plus sensibles, c'est un tour de force. Et ça, il l'a fait, je pense, en grande partie en désapprenant, en utilisant un matériau avec lequel il a désappris les réflexes qu'on a dans l'usage de la langue. Et en même temps, effectivement, le fait d'avoir la possibilité de dire, de travailler sur cette impossibilité pour en faire une forme, ça permet de sortir de la sensation d'impasse dans laquelle on se trouve, puisque c'est une quête qui, qui reste jusqu'à la fin de son existence ouverte. On n'atteint jamais, on n'arrive jamais à dire complètement, à finir, à conclure cette sensation d'être, à lui donner une forme définitive. Donc, il va sortir en fait de cette dépression pour aller dans une recherche, toujours recommencer, toujours réinvestir avec d'autres moyens, par d'autres biais, dans différents genres, puisque bon, là on parle du théâtre, mais bon, les textes en prose, les poésies diverses sont tout aussi importantes dans cette quête de Beckett. Hein.
Et un autre élément d'apprentissage de Friedrich, de l'œuvre de Friedrich sur Beckett, c'est que Beckett y trouve aussi une confirmation qu'il faut se garder d'éclaircir ses intuitions, d'éclaircir ses éléments du texte. Vous écrivez, il y a toujours au fondement des tableaux de Friedrich quelques obscurs pressentiments que l'artiste lui-même peut rarement se rendre clair. Et il doit se garder de vouloir éclaircir cette macération de l'ombre, ce serait prendre le risque de l'étouffer. Un peu plus loin, vous écrivez sur le comportement de son personnage Murphy, qu'il lui fallait faire attention à ne pas finir par comprendre clairement ce qu'il écrivait. C'est aussi un apprentissage, une intuition qu'avait Beckett et qu'il apprend en voyant, ou il trouve confirmation en voyant les tableaux de Friedrich.
Oui, alors quand je dis aussi tout ça n'est pas clair à l'esprit de Beckett au moment où il le voit. C'est pas, on n'est pas dans une révélation où tout à coup lui apparaît dans une clarté presque céleste. En tout cas, il sait que quelque chose se passe puisqu'il le note dans son carnet. Il dit qu'il a une prédilection pour ce petit tableau de Friedrich, et, en ajoutant que finalement c'était le seul type de romantisme acceptable, à savoir bémoliser. Donc le fait que Beckett note une chose comme ça montre qu'il est quand même conscient que quelque chose se passe. Après, tout le déploiement de ce que c'est ce rapport avec cette œuvre qu'il ne verra qu'une seule fois, en fait, avant d'écrire Godot 11 années plus tard, il va ça va germer en lui, ça va se développer, et effectivement tout ce processus qui amène à la création, qui amène à l'élaboration d'une œuvre, je pense que effectivement Friedrich et Beckett se gardent d'essayer de l'éclairer, de l'éclaircir, parce que alors on entre dans un autre rapport à la création qui serait plutôt une espèce de commentaire ou d'analyse sur comment la création ou un décortiquage de comment s'élabore la création. Eux veulent atteindre la matière brute de la création, et donc ça fait partie effectivement de ce désapprentissage. Évidemment, en plus, il ne suffit pas de se le dire, hein, c'est quelque chose de... C'est quasiment un état dans lequel il faut être, une espèce d'état d'écoute où on se débarrasse de ce qui encombre, de ce qui est là et qui n'est pas en fait qui n'est pas, j'allais dire nous, mais en fait c'est pas nous que nous cherchons dans cette cas, mais qui n'est pas approprié pour faire ce travail là et oui, c'est il faut accepter, en tout cas, voilà, il faut accepter d'être dans cette indétermination où seule l'intuition, avec ce que l'intuition inclut comme lien avec l'expérience, là où elle peut nous mener, il faut faire confiance à ce mouvement-là, en fait. Il y a une espèce de tâtonnement aveugle dans lequel il faut accepter d'être.
Cette œuvre de Friedrich, nous la voyons avec nos yeux de 2015. Ces tableaux sont devenus des emblèmes de ce que peut représenter l'âme tourmentée, romantique. C'est ce que vous écrivez. Il y a toute une sorte de pathos comme ça, cette couche-là émotionnelle de ce que peuvent représenter ces tableaux-là depuis qu'on peut les voir reproduits et on les trouve souvent reproduits à l'occasion de publications, par exemple de livres sur l'âme allemande, sur les tourments de l'âme, sur nos psychologies un peu dépressives. Or, à l'époque où Beckett voit le tableau, voit cette série de tableaux de Friedrich en 1937, il n'y avait pas cette couche-là d'émotion, de sentiment, de sentimentalité qu'on colle à propos de ces tableaux. Il avait un regard vierge. Vous écrivez « L'imaginaire friedrichien occupe une place si familière dans la représentation des tourments de l'âme ». Ce qui est en partie un contresens, que ces œuvres sont devenues des stéréotypes du genre, diffusées-elles des images publicitaires avec lesquelles on a perdu toute intimité. Lui, Beckett, quand il voit ces tableaux-là, il a un regard vierge sur ces œuvres de Friedrich.
Oui, il a un regard tellement vierge qu'il s'en méfie, en fait, puisqu'il les assimile au grand rayonnement du romantisme, et il se méfie du romantisme. Et pour le coup, pendant 4 mois avant de voir ces deux hommes contemplant la Lune, il voit dans les musées des œuvres de romantique allemand et certainement aussi des œuvres de Friedrich. Il commente les romantiques et il condamne leur sentimentalité, leurs excès et autres, mais il ne dit pas un mot sur Friedrich. Donc ça montre qu'effectivement il ne savait pas quoi penser de Friedrich, parce que je pense que quand il a vu Friedrich, ça a dû l'interpeller. Enfin, c'est tout d'ailleurs l'objet de la première partie de mon livre, où j'invente cette scène qui a dû exister, où Beckett se retrouve devant l'œuvre la plus connue de Friedrich, l'homme qui observe la mer de brume. Je pense qu'évidemment ça a dû faire un écho assez important dans l'état dans lequel était Beckett. Ce caractère brumeux de l'œuvre et cette indétermination a dû faire écho à ce qu'il vivait intérieurement. Et donc tout à coup il s'est demandé qu'est-ce que c'est que ce peintre, et comme ce peintre on disait qu'il était romantique, je pense qu'il a dû être suffisamment perturbé que pour ne pas en dire quoi que ce soit. Et quand enfin arrive ce tableau des deux hommes, là je pense qu'il a déjà eu tout une évolution intérieure qui fait qu'il se rend compte que effectivement Friedrich, ce n'est pas le romantisme tel que on peut s'en faire une idée stéréotypée, en fait. Puisque quand je dis dans le livre « Les tourments de l'âme », je parle évidemment du stéréotype du romantisme allemand ou autre, puisqu'il y a eu un romantisme en France, en Angleterre, en Écosse. Donc Beckett, oui, en plus Friedrich commençait à être découvert à l'époque de Beckett, donc il n'avait pas beaucoup d'instruments pour il n'avait pas besoin de ça, hein, je veux dire, il pouvait faire confiance à son jugement, et il avait suffisamment de connaissances dans le domaine de l'art que pour pouvoir un petit peu savoir à quoi s'en tenir, mais là je pense qu'il a été désarçonné, Beckett. Hein.
Pour conclure cet entretien, juste redonner quelques éléments chronologiques. Beckett a 30 ans au moment du séjour en Allemagne, 42 lorsqu'il écrit la pièce de début octobre 1948 à fin janvier 1949, on parle de En attendant Godot, 46 ans le soir de la première représentation le 5 janvier 1953. Et ainsi vous pouvez terminer votre boucle sur cette recherche.
Ça, en fait, tout l'intérêt du livre était aussi dans toutes ces cet espace de silence dans lequel s'est fait cette œuvre, et ce temps Effectivement, puisqu'il y a eu 11 années qu'on séparait la vision, enfin, l'observation du tableau de Friedrich, de l'écriture d'En attendant Godot. Et donc, c'est des zones très floues où des choses se sont passées qu'on ne connaît pas. Et c'était un peu, pour revenir à ce que je disais au début, effectivement, je ne mesurais pas l'enjeu du livre en m'y aventurant, puisqu'il s'agissait effectivement d'entrer dans le processus de création de Beckett, et ce qui l'a conduit à écrire quand même une des œuvres les plus connues du XXe siècle. Et heureusement que... Il y avait cet angle d'attaque par ce petit tableau de Friedrich qui permettait de revenir à une approche moins paralysante que celle que j'aurais pu avoir en prenant les choses à rebours et en partant d'En attendant Godot, justement.
Merci Stéphane Lambert.
Merci à vous.